Europe 1, il est 7h.
Il va bien falloir qu'on fasse une réforme. Et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, c'est pas une solution.
L'insatisfaction du patronat ce matin, alors que le gouvernement n'exclut pas de repousser l'entrée en vigueur de la réforme des retraites. Explication, réaction de la CPME à suivre.
Des mots étonnants encore, ceux de Donald Trump au sujet de la situation en Syrie. Et il y a beaucoup de sable avec lequel ils peuvent jouer, ou comment le président américain prend ses distances avec l'affrontement en cours entre Turcs, Kurdes et Syriens.
Des analyses anormales et l'inquiétude des pompiers de Rouen. Explication d'un toxicologue dans un instant.
Des ventes déjà en baisse et des médecins qui jettent l'éponge. Enquête Europe 1 ce matin sur les premiers effets du déremboursement de l'homéopathie. Ce ne sera pourtant qu'en 2021.
Il raffole des flocons d'avoine et déteste la lumière. Ce n'est pourtant ni un animal ni une plante. Voici le blob. Il est présenté aux Eaux de Paris ce week-end.
Ça a l'apparence plus ou moins d'une feuille de chou. D'une très belle feuille de chou qui s'étale. Couleur jaune, verdâtre par moment, mais là il est vraiment jaune.
Beaucoup de suspense. Ce sera la fin du journal. Il est 7h01.
Europe 1. Le journal Mathieu Béliard, Marion Calais.
Comment faire accepter la réforme des retraites? Le dilemme du gouvernement alors que la fronde s'organise avec une grande manifestation annoncée hier pour le 5 décembre prochain. Les pistes de réflexion sont donc lancées.
Bonjour Nicolas Barré.
Bonjour Mathieu.
Directeur de la rédaction des Échos. Votre éclairage tous les matins et vos révélations même aujourd'hui sur le plan B du gouvernement pour cette réforme.
Oui, qui consiste tout simplement à différer l'application de la réforme dans le temps. Vous savez, c'est efficace hein, comme technique. On l'a vu avec la réforme du statut des cheminots qui ne s'appliquera qu'aux nouveaux entrants. La réforme ne change rien pour ceux qui sont en place, efficace pour désamorcer les critiques. Et c'est donc cette idée qui est évoquée dans un document de travail transmis par le haut commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye aux partenaires sociaux. La première génération concernée par la bascule dans le futur régime à point ne serait plus celle née en 1963, celle qui aura 62 ans en 2025. Cette bascule pourrait être repoussée aux générations postérieures, dit ce document.
Et au final, la réforme pourrait même ne concerner que les nouveaux entrants sur le marché du travail. Hein.
Alors oui, ce qui voudrait dire dans cette hypothèse extrême qu'elle ne s'appliquerait que pour ceux qui commencent à travailler après le vote de la réforme. Bref, ça décalerait son application de plusieurs dizaines d'années. Bien sûr, il ne s'agit là que de pistes de travail. On pourrait imaginer par exemple que la réforme soit repoussée pour certains régimes seulement, la RATP par exemple, mais pas pour tout le monde. Ce qu'il faut retenir, pour reprendre ce qu'avait dit Édouard Philippe début septembre, c'est que le gouvernement n'a pas de tabou. Il est ouvert à beaucoup de choses et surtout à tout ce qui permettrait d'éviter un embrasement contre sa réforme, quitte à ce qu'elle soit repoussée très loin dans le temps.
Les informations de Nicolas Barré ce matin, directeur de la rédaction des Échos. Merci.
C'était l'éclairage Écho avec la banque Kolb. Pour ceux qui entreprennent au cœur des territoires, banque Kolb, une des 8 banques du groupe Crédit du Nord.
Et on poursuit sur ce sujet d'un possible report de la mise en œuvre de la réforme des retraites avec la réaction de Jean-Hugues Duménil, le secrétaire général de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
Il va bien falloir qu'on fasse une réforme et simplement repousser dans le temps la réforme en disant on verra plus tard, désolé, mais malheureusement, ce n'est pas une solution. Le plus grave au milieu de tout ça, c'est qu'on voit se dessiner entre les lignes une troisième voie qui consisterait à rentrer cette réforme en application dès 2025 pour les salariés du secteur privé. Et les salariés du secteur public et des régimes spéciaux verraient l'application de la réforme reportée au calende grec. Ça serait quelque chose de tout simplement inacceptable. Ça veut dire à ce moment-là que le gouvernement renonce à faire une véritable réforme des retraites et qui s'inscrit dans la continuité de ce qui était fait précédemment, où on prenait certaines mesures et petit à petit, on rognait sur le système des retraites.
Le secrétaire général de la CPME, joint par Hélène Terzian pour Europe 1 et le patron du syndicat Force Ouvrière, sera l'invité tout à l'heure du journal de 8h.
Europe 1, il est 7h04.
Pas de stigmatisation, pas de division, le message d'Emmanuel Macron hier soir après 3 jours de polémique sur le port du voile.
Point de départ de l'affaire, une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, au cours de laquelle une maman voilée a été prise à partie par un élu du Rassemblement National. Elle va porter plainte aujourd'hui et demain, notamment pour provocation à la haine raciale.
Dans la foulée de cette affaire, certains élus ont demandé l'interdiction du voile lors des sorties scolaires. Mais ce genre d'incident est-il si courant? Élément de réponse avec Virginie Riva pour Europe 1.
Au ministère de l'Éducation nationale, il n'y a aucune comptabilité sur le sujet. On explique que dans 95% des cas, tout se résout à l'amiable. La pratique a été autorisée par le Conseil d'État en 2013. Les parents d'élèves ne sont pas soumis à l'obligation de neutralité qui incombe aux agents publics. Mais il y a les cas conflictuels. Exemple, un chef d'établissement peut décider de ne pas accepter une mère voilée lors d'une sortie scolaire en cas de tension créée entre parents d'élèves, ou bien si le comportement de la mère voilée relève du prosélytisme religieux, ou encore s'il considère que l'activité de la sortie n'est pas compatible avec le port du voile. Face à ces situations et en cas de doute, les personnels de l'Éducation nationale peuvent aussi appeler l'Observatoire de la laïcité. Des appels qui sont rares, mais à chaque fois, l'Observatoire rappelle le droit. Quand ça se passe mal, le défenseur des droits va être saisi par des maires ou des associations religieuses. Entre 2018 et 2019, il a reçu une dizaine de saisines, notamment de maires se sentant victimes de discrimination après avoir été écartées d'une sortie parce qu'elles portaient le voile.
Les précisions de Virginie Riva pour Europe 1.
Face à l'offensive de la Turquie en Syrie, Donald Trump a voulu montrer hier sa fermeté. Mais au final, ce sont ses manières bien peu orthodoxes qui se retrouvent pointées du doigt.
Après qu'une écrasante majorité d'élus de la Chambre des représentants, républicains compris, ont voté contre sa politique en Syrie, le président a nié avoir donné le feu vert à l'offensive turque en retirant ses troupes. Et pour le prouver, il a évoqué une lettre puissante envoyée au président turc il y a une semaine, lettre révélée ensuite par les médias américains et dont on retient surtout la forme. Aux États-Unis pour Europe 1, Xavier Yvon.
Ne jouez pas les durs, ne faites pas l'imbécile. Voilà comment le président Trump tente de convaincre le président Erdogan de ne pas massacrer des milliers de personnes. C'est écrit noir sur blanc sur du papier à en-tête Maison Blanche. Pourtant, trois jours avant cette lettre, les chefs d'État s'étaient parlé au téléphone et ils s'étaient mis d'accord. Retrait des soldats américains en Syrie pour laisser la place à l'invasion turque. Finalement, Donald Trump écrit à son homologue qu'il faut trouver un bon accord. Sinon, le président américain menace de détruire l'économie turque. Et il prévient le président Erdogan, l'histoire le verra comme le diable si les choses se passent mal. Le langage est tellement peu diplomatique que les journalistes américains incrédules ont dû vérifier l'authenticité de la lettre auprès de la Maison Blanche. Hier, Donald Trump s'est montré tout aussi familier pour dire finalement à quel point il se lavait les mains de la guerre entre Turcs, Syriens et Kurdes. Il y a beaucoup de sable là-bas, il dit. Ils ont beaucoup de sable avec lequel ils peuvent jouer. New York, Xavier Yvon, Europe 1.
Et aujourd'hui, le vice-président et le secrétaire d'État américain doivent rencontrer le président turc qui, dès hier, a rejeté tout cessez-le-feu. De bons progrès, le travail se poursuit. Les mots du négociateur de l'Union européenne hier soir au sujet des discussions sur le Brexit à Bruxelles, sommet européen ce jeudi.
Europe 1. Et trois semaines après l'incendie de Lubrizol à Rouen, des pompiers qui s'inquiètent. Résultat d'analyse anormaux pour six d'entre eux. Le journal de 7h continue dans un instant.
Il est 7h09, la suite du journal sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et Marion Calais.
Ils envisagent de porter plainte. Les pompiers intervenus contre l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen il y a trois semaines s'interrogent après que des analyses ont révélé des résultats anormaux pour une dizaine d'entre eux. Des résultats qui montrent des signes d'atteinte au foie et aux reins.
Bonjour André Picot.
Bonjour.
Vous êtes chimiste spécialisé en toxicologie. Ils ont raison de s'inquiéter, ces pompiers qui présentent des résultats d'analyse anormaux.
Dès qu'on a des analyses comme ils l'ont, par exemple, une élévation du taux de transaminase, c'est-à-dire c'est un marqueur biologique qui montre une souffrance hépatique, eh bien, il faut quand même s'inquiéter parce que, vous savez, le foie est un organe fragile. Et on continue à observer cette élévation, effectivement, il faut s'inquiéter. Mais généralement, quand on a une intoxication due à des produits chimiques avec élévation de transaminase, quand on arrête l'exposition, peu à peu, ce taux de transaminase diminue.
Oui, c'est ce que disent justement les autorités, les responsables des pompiers, c'est qu'il faut attendre, il faut surveiller et voir les résultats des prochaines analyses. Ces résultats anormaux pourraient en fait diminuer prochainement. Hein.
Normalement, oui. Alors, il y a quand même un cas un peu particulier, c'est peut-être les personnes qui ont une fragilité hépatique. Vous savez qu'ils ont fait, par exemple, une hépatite virale ou une intoxication alimentaire, etc., avec atteinte du foie, à ce moment-là, ce sont quand même des sujets à risque et il faut quand même rester très vigilant. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que d'emblée, on n'a pas fait d'analyse sanguine pour savoir effectivement, suite après l'intervention, quel était, par exemple, l'état de leur foie, l'état des reins. Ça aurait été quand même très judicieux.
Oui, il va donc être maintenant très important de surveiller l'état de santé de ces pompiers qui sont intervenus sur l'usine, contre l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Merci André Picot, toxicochimiste, d'avoir été en direct avec nous dans ce journal de 7h.
Il n'entrera en vigueur qu'en 2021 et pourtant le déremboursement de l'homéopathie bouleverse déjà le secteur.
Bonjour Ève Roger.
Bonjour.
Votre enquête ce matin, premier constat, les ventes de granules ont déjà commencé à baisser.
Incontestable. Tous les chiffres convergent. Chez Boiron, leader sur le marché, on annonce une baisse de chiffre d'affaires en France de 10,5% pour le premier semestre 2019. Confirmation du côté des pharmaciens, moins 12% depuis le début de l'année, selon Pharmastat. Mais ce qui est intéressant, c'est que la baisse a commencé bien avant, en 2018, moins 10% dans les pharmacies. Et même la Sécu reconnaît qu'elle a moins remboursé de granules l'année dernière.
Une baisse avant même donc ce déremboursement, comment l'expliquer cette baisse ?
Eh bien parce que la polémique sur l'efficacité de l'homéopathie a démarré bien avant. Souvenez-vous, en mars 2018, avec la tribune véhémente de 124 médecins dans le Figaro, haro sur l'homéopathie. Et puis il faut dire aussi, et ça on en parle peu, qu'il y a moins de médecins homéopathes pour prescrire des médicaments. Beaucoup sont partis à la retraite dans les 3-4 dernières années, comme tous les médecins. Certains ont même décroché plus tôt que prévu, m'a confié le patron du syndicat des homéopathes, parce qu'ils en avaient marre d'être attaqués de toutes parts.
Ça veut dire que la polémique a donc aussi impacté le nombre de médecins homéopathes.
Ah bah ça c'est sûr. Aujourd'hui, celui qui prescrit de l'homéopathie n'a plus le sentiment d'être soutenu ni par les autorités sanitaires, ni par le conseil de l'ordre des médecins, puisque début octobre, l'ordre a décidé de ne plus reconnaître le titre de médecin homéopathe jusqu'à nouvel ordre. Et même sur les bancs de la fac, on a anticipé le mouvement. Certaines facs ont tout simplement fermé leur DU, diplôme universitaire d'homéopathie, faute d'inscrits comme à Limoges, Poitiers et Tours, ou alors parce que le doyen de la fac de médecine ne voulait plus cautionner cette pratique jugée non scientifique. Ça a été le cas à Lille puis à Angers. Alors aujourd'hui, il reste 3 ou 4 formations universitaires, dont un diplôme commun aux facs de Lyon, Brest et Reims. C'est là où j'ai trouvé Amandine. Elle a 27 ans et elle trouve assez rude de renoncer à son titre de médecin homéopathe au milieu de sa formation.
Bah, c'est sûr que c'est un peu décevant. Moi, j'avais surtout peur qu'on n'ait pas le droit de faire la deuxième année. Donc j'étais plutôt soulagée d'avoir un diplôme, même si il sera peut-être pas totalement reconnu. C'est un peu dommage, mais bon. C'est pas parce qu'on n'a pas le titre qu'on peut pas prescrire. Bon.
Alors certaines facs font de la résistance et vont proposer pour la rentrée prochaine un nouveau diplôme qui intégrerait d'autres médecines alternatives, diplôme que le Conseil de l'Ordre pourrait reconnaître. Mais aujourd'hui, tout l'espoir repose sur les patients avec ce chiffre magique. 63% des Français assurent qu'ils continueront à avaler des granules malgré le déremboursement.
Merci Ève Roger. L'enquête du journal de 7h ce matin. J'attends vos appels au 3921. Est-ce que ces débats, ces polémiques autour de l'homéopathie ont changé votre regard ou même votre consommation finalement de ces granules ? Dites-le-nous ce matin. 3921, le hashtag Europe 1. Vous serez en direct avec nous.
Europe 1.
4 lettres pour une nouvelle star. Dans la suite du journal, la découverte du blob, une étrange espèce vivante, étrange créature, mise à l'honneur aux eaux de Vincennes. A tout de suite.
Il est 7h15 sur Europe 1, le journal se poursuit avec Marion Calais et Mathieu Béliard.
Ça ressemble à un champignon, mais ce n'en est pas un.
Ça ressemble aussi à une plante, mais ce n'en est pas une. Le très mystérieux blob fait son entrée au parc zoologique de Paris ce week-end. Présentation avec Laure d'Autriche pour Europe 1.
Ça a l'apparence plus ou moins d'une feuille de chou, d'une très belle feuille de chou qui s'étale couleur jaune, verdâtre par moment, mais là il est vraiment jaune.
C'est un mystère dans la nature. Installé dans un vivarium sur une branche d'arbre, le blob est une sorte de cellule rampante qui se déplace de 3 ou 4 cm par heure et grandit chaque jour. Le blob raffole des flocons d'avoine, déteste le salé et fuit la lumière. C'est un être fascinant qui n'a pas de cerveau, mais qui est tout de même capable d'une forme d'intelligence, détaille Bruno David, le président du Muséum d'Histoire Naturelle.
Si on le met dans un labyrinthe avec de la nourriture à la sortie du labyrinthe, il est capable d'optimiser son parcours dans le labyrinthe pour aller sortir du labyrinthe. Ils sont capables aussi de comportements différents selon qu'on a un blob japonais, américain, australien ou européen. Le blob japonais est plus rapide pour aller chercher sa nourriture. S'il y a des compétitions pour la nourriture, le blob japonais est plus pacifique que le blob américain. Donc on croit rêver. Hein.
Le blob existe depuis 500 millions d'années. Comme l'être humain, il est issu de la fusion de 2 cellules, mais il n'y a pas de sexe masculin et féminin. Le blob possède 720 sexes différents.
Le blob présenté au public à partir de ce week-end aux eaux de Vincennes, près de Paris.
Ben on va aller voir le blob. Étonnante créature. Merci beaucoup Marion Calais, c'était le journal de 7h. Un nouveau journal à 7h30 tout à l'heure avec Hélène Zélani.